C'est bien, c'est bien. Moi aussi, j'ai la paix dans mon cœur, grâce à Jésus, mon Sauveur.
Amen.
C'était simplement par introspection, ça, j'aurais pas la paix dans mon cœur. Parce que nul n'est sauvé par ses œuvres. Et comme malheureusement nous sommes encore sur cette terre avec des limitations, eh bien, heureusement qu'il y a la grâce de Dieu pour chacun de nous. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? C'est bien. On va commencer, on va faire pas mal de lectures aujourd'hui dans la Bible, parce que c'est important. C'est pas celui-là.
C'est celle-là.
Amen. Elle est pleine de petits bouts de papier comme ça. Une lecture dans Éphésiens chapitre 2 et verset 1. On raconte l'histoire d'un pasteur qui est invité par une chrétienne et cette chrétienne lui dit « Est-ce que vous voulez prier pour moi parce que j'ai perdu mes lunettes, c'est vraiment très embêtant. » « Ah bon, ça fait combien de temps? Ça fait 15 jours que je les cherche partout, je trouve plus mes lunettes, c'est embêtant. » Alors le pasteur prie, il dit « Mais avant de prier, on va lire la Bible. » Il dit « Oui, vous avez raison, elle prend la Bible, elle l'ouvre, les lunettes étaient dedans. » Ah, ça voulait dire que ça faisait 15 jours qu'elle n'avait pas lu sa Bible. Hein. La vilaine! On se nourrit tous les jours. On a besoin de la parole de Dieu qui est une nourriture tous les jours. Alors voilà, elle était bien prise à son affaire. Alors, Éphésiens, chapitre 2, verset 1. « Quant à vous, vous étiez donc nous, hein, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, on était morts. On était coupés parce que lui est la vie, et on était coupés de la vie, on était morts. Alors on existait, mais après c'était terminé. La mort éternelle. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous avez pratiqués, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature. Là, ils ont écrit de notre nature propre, mais notre nature n'était pas propre. Hein. Puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère comme tous les autres, mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Vous voyez, je reviens encore, j'ai dit, ah, dimanche je vais prêcher autre chose que la grâce et les œuvres. Mais quand on a quelque chose dans l'esprit, c'est difficile de s'en sortir. Et tous les textes en ce moment me parlent de ça, de la grâce et des œuvres. Mais quand même, je vais faire quelques variantes ce matin. Avant notre conversion, nous étions sous l'autorité du prince de la puissance de l'air. C'est bizarre comme expression, hein. Seigneur, je te prie vraiment de nous éclairer pour que nous comprenions les choses que tu veux nous dire et que cela puisse nous aider à être pratique dans notre vie de tous les jours, dans tous les domaines, comme dans chaque instant de chaque jour, comme nous l'avons chanté, que nous puissions être vainqueurs et plus que vainqueurs par toi, Jésus. Amen. Le prince de la puissance de l'air. C'est la puissance, cette puissance-là, qui est à l'œuvre, la Bible nous le dit, parmi les hommes et les femmes rebelles. C'est-à-dire ceux qui se rebellent contre Dieu, contre l'ordre établi par Dieu, contre l'ordre tout clair, parce que, en fait, ce qui est en ordre, c'est pas le désordre. Eh bien, vous avez des gens qui sont rebelles à cela. Et ils sont donc sous la puissance, sans le savoir, d'un prince qui s'appelle le prince de la puissance de l'air. Nous étions de leur nombre, mais nous avons changé de maître. Nous avons reconnu nos fautes, nous sommes venus devant Jésus, nous avons reconnu la plus grande faute qui était la nôtre, c'est-à-dire de ne pas avoir cru que Jésus-Christ nous aimait et au point de donner sa vie pour nous afin que nous soyons pardonnés et purifiés. Et puis ensuite, nous avons demandé aussi pardon pour nos péchés. Et puis on en a oublié. C'est vrai, on en a tellement fait. Alors, on a fait comme David, Seigneur, pardonne-nous aussi les offenses que nous avons oubliées. Pardonne tout, purifie-nous. Et il l'a fait. Il l'a fait. Aujourd'hui, nous sommes sous l'autorité du souffle de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a la puissance de l'air, et puis il y a la puissance du souffle de Dieu, le pneuma, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Rappelez, quand le Saint-Esprit est arrivé, c'était comme un vent puissant qui a soufflé sur les disciples. Parce que le prince de la puissance de l'air a été vaincu à la croix d'une façon définitive. On va lire ça dans Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. J'aime bien ponctuer ce que je dis par les Écritures, pour que vous sachiez que ce n'est pas moi qui vous invente des choses. Colossiens 2, 13, 15. Et voilà ce qu'il est dit. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes, c'est encore la même constatation, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, vous avez été rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Ça veut dire les passées, les présentes, les futures. Il a pardonné tout. Ça ne veut pas dire pour cela que nous pouvons profiter de faire ce qu'on veut, parce que ça serait de la malhonnêteté. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités qu'il a donné publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Qu'est-ce que ça signifie? Vous vous rappelez que on ne connaît le péché que parce que Dieu a donné une loi. Si Dieu n'avait pas dit « ne touche pas », on pourrait toucher, ça ne serait pas un péché. Mais puisque Dieu a dit « ne touche pas », alors c'est un péché. Donc vous avez les commandements de Dieu. Et sitôt que vous désobéissez à un commandement de Dieu, vous êtes dans un état de péché, donc de perdition. Même si les gens aiment bien dire « ah, ça c'est un gros péché, ça c'est un petit péché, ça c'est un péché mortel, ça c'est un péché... » Ils mettent des classes, mais en réalité, péché c'est péché. Et un pécheur n'entre pas dans le royaume de Dieu. Mais Jésus est venu et il nous a pardonné tous nos péchés. Et il a pris cette ordonnance, c'est-à-dire la loi qu'il avait lui-même donnée. Il l'a pris, cette ordonnance qui nous accusait, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a clouée à la croix. C'est-à-dire que quand Jésus est mort sur la croix, ce qui a été cloué à la croix, c'est la loi de Moïse en fait. Toutes ces lois qui nous condamnaient. C'est pourquoi nous ne sommes plus condamnés, parce qu'il est mort avec ça. Et maintenant, nous sommes libres. Pas libres de péché, mais nous sommes libres de cette condamnation. Et s'il nous arrive de pécher, le fidèle est juste pour nous pardonner, nous purifier de tout péché, si nous confessons notre péché, si nous lui en parlons, comme un fils va vers son papa lui disant « Papa, voilà, je t'ai piqué 2 euros dans ton porte-monnaie, il n'est pas obligé de supplier son père de le pardonner, il sait très bien que le père va pardonner, mais peut-être qu'il y aura une punition, ou peut-être... » Mais enfin, de toute façon, c'est bien d'avoir une relation comme ça avec notre Père Céleste, de lui avouer nos fautes. Celui qui avoue ses fautes, déjà il est sur le chemin de la purification, parce que nous avons, quand nous péchons quand même, eh bien voilà, on a besoin de se sentir propre, non? Ben voilà, c'est normal. Et nous avons à lutter contre ces puissances de l'air, dont l'apôtre parle là, qui ont été détrônées, oui, qui ont été offertes en spectacle. C'est ce qu'on vient de lire. C'était offert en spectacle. La croix, c'est un spectacle abominable, c'est affreux. Et ça nous choque que Jésus soit mort sur cette croix, c'est choquant. Mais c'est un spectacle, c'est lui-même, c'est Paul qui le dit, qu'il a offert afin de frapper notre conscience, que nous nous souvenions. Voilà, ça a coûté cher à Jésus, notre salut. Il l'a donc cloué à la croix, il l'a détrôné ses puissances en les offrant comme un spectacle à la croix, en disant voilà, non, ça c'est le point final de leur autorité sur le monde. Mais ces puissances qui ont été détrônées, elles sont profondément menteuses. Le diable est le prince du mensonge. Et il cherche à nous faire croire, ses autorités, ses puissances de ténèbres, que nous sommes encore sous leur autorité. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Vous devez leur dire en pleine face, « Tais-toi, Satan, tu es un menteur. » Elles nous mentent. Éphésiens 6, 12, s'il vous plaît, avec moi. Éphésiens 6, 12. Il dit mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Il vous manipule. Dans le mot manœuvre, il y a le mot main. Il vous manipule. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal, dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans l'air. Ça se passe dans l'air, ça flotte là, c'est dans l'air. Et le monde est infesté par toutes sortes de démons qui viennent pour vous tenter, et au moment où on ne s'y attend pas, paf, des trucs qui... C'est infernal, mais nous devons prendre les armes de Dieu, pas nos propres armes, mais les armes de Dieu. Les armes de Dieu, elles sont décrites un petit peu plus loin, vous lirez, ayant autour de votre taille la vérité, comme disent de ceinture, il faut que nous soyons authentiques, vrais, que nous connaissons la vérité. Jésus dit la vérité vous rendra libre. Donc nous devons, c'est pourquoi il est bon de lire la Bible pour connaître la vérité. Tout à l'heure, nous parlions de Gutenberg, parce qu'ils ont passé, ils ont fait un reportage hier soir à la télévision. Et la Bible est devenue quelque chose de public à ce moment-là. Avant Gutenberg, les Bibles étaient écrites à la main, il fallait à peu près 3 ans. Ça dépend aussi du nombre d'enluminures qu'on mettait dedans. Et puis depuis Gutenberg, c'est devenu un livre public. Et c'était tellement grave pour les églises que n'importe qui puisse lire ça, qu'ils l'ont interdit pendant 400 ans. Moi, je me souviens, quand on donnait des Nouveaux Testaments, dans le canton de Fribourg, en Suisse, qui est un canton très catholique, on me disait « Non, c'est interdit, on n'a pas le droit ». Ça n'était plus interdit, mais ils avaient encore ça, cette crainte. L'Église avait interdit la lecture de la Bible. Nous devons lire la Bible pour connaître la vérité. La vérité nous affranchit. Ce n'est pas une religion qui va vous affranchir. Ce n'est pas une religion qui va vous rendre libre. C'est l'Esprit qui est dans ce livre. Parce que c'est un Esprit qui a dicté ce livre. C'est le Saint-Esprit qui a dicté ce livre. Et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il est nécessaire que vous connaissiez la vérité parce qu'il n'y a qu'elle qui peut vous affranchir. De quoi ? Ben justement, de toutes les manœuvres du diable, de tous ces mensonges, de toutes ces choses-là. Vous voyez ? Donc voilà, et alors il dit ensuite, il y a d'autres armes, hein, ça c'est des armes divines. Ensuite, il faut revêtir, il faut enfiler la cuirasse de la justice, c'est-à-dire que la moindre des choses, c'est que nous soyons justes. Et comment être juste ? C'est par grâce que nous sommes justes uniquement. Enfin, c'est pas le terme de ma prédication, mais nous ne devons pas nous battre contre les démons ou contre ces puissances-là, simplement charnellement. Je me rappelle notre sœur Camélia, sœur Gitane, c'était ma maman spirituelle. Alors elle avait été invitée par un homme dans sa maison pour chasser des démons. C'était un homme très riche, c'était une des plus grandes fortunes personnelles à l'époque. C'était des vins, je ne vous dis pas lesquels. Mais c'était bourré de démons là-dedans, dans sa maison. Alors elle était invitée pour chasser les démons. Et puis c'était une lutte qui était difficile, elle était toute seule, donc elle a demandé à Raphaël de venir. Et Raphaël, il a passé une première nuit dans la maison, il a dit « Non, c'est trop fort pour moi ». Il est parti pour acheter un fusil. Il voulait tuer. Camille, mon fils, on ne tue pas les démons avec les fusils. Il dit « Oui, je sais, mais quand même, ça bouge de partout là-dedans. » Il voulait tirer sur les démons. Et il a appris, il était jeune encore, il a appris après. C'est pas avec la chair et le sang, n'est-ce pas ? On n'a pas à lutter contre des gens, on n'a pas à lutter contre des puissances terrestres, c'est des puissances spirituelles. Et il faut avoir des armes spirituelles, il faut nous revêtir des armes de Dieu, pas de nos armes à nous. Ne prenez pas mes armes à moi, c'est celles de Dieu, mais elles sont à moi. Prenez les armes de Dieu, il y en a assez pour vous. D'accord ? Il faut que vous soyez vous-même revêtu, c'est vous qui devez le faire. Alors, elle nous ment, elle nous trouble, et c'est embêtant, c'est très embêtant, mais elles sont vaincues, il faut le savoir. Quand nous avons connaissance de leur déchéance, elles sont déchues, quand nous avons connaissance de la déchéance de ces êtres-là, de ces puissances-là, alors elles ont la connaissance de la gloire de Dieu par nous. Alors ça, je vous le lis dans Éphésiens 3, 8, parce que c'est important de lire tout ça dans la parole de Dieu. Éphésiens 3, 8, il est dit, c'est pour Paul qui parle encore, il dit, « Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes, celles dont il parle un peu après, c'est-à-dire les puissances de l'air, ces autorités, ces dominations, puissances de l'air, il dit, ainsi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons été libérés et que nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. Donc, chaque fois que vous prenez les armes de Dieu pour lutter contre ces mauvaises puissances qui vous tentent, qui vous accablent, qui vous font du mal, quand vous luttez là contre, vous êtes participant avec Dieu d'une grande bagarre qui dure depuis longtemps, et ces puissances-là sont étonnées. Parce que nous n'avons jamais vu Dieu, moi en tout cas pas. Le diable, il se présente devant Dieu, il parle comme ça avec lui. Vous lisez ça dans Job. Les démons savent que Dieu existe. La Bible dit, ils croient en Dieu, les démons, mais ils tremblent parce que ils savent dans quel état ils sont. Et quand ils me voient ou quand ils vous voient résister au mal, ils se disent, alors là, ça c'est vraiment, Dieu est infiniment sage. C'est extraordinaire que des êtres humains qui n'ont jamais vu Dieu, que je tourmente sans arrêt, arrivent à tourner les regards vers le Seigneur et à se battre contre moi et en plus d'avoir la victoire. Et vous glorifiez Dieu en faisant ça. Voilà pourquoi il nous laisse sur la terre pendant un petit moment. Alors, il pourrait très bien nous sauver, puis hop, il nous enlève tout de suite. Non, il veut qu'on le glorifie sur la terre au milieu des difficultés, des problèmes et des attaques de l'ennemi. C'est pas contre les gens qu'on a à lutter. Bien sûr, on a l'impression que c'est contre les gens, hein. Mais non, non, c'est les esprits qui les animent, c'est contre ces esprits-là qu'on a à lutter. Pas contre la chair et le sang, pas contre des hommes. Les pauvres bonhommes, les pauvres bonnes femmes, c'est des êtres manipulés par l'ennemi. Il faut comprendre ça, il faut le comprendre ça. Ces puissances infernales savent que nous ne reviendrons jamais sous leur autorité, sous la puissance du prince de l'air. Jamais on retournera là. Mais nous sommes sous le souffle de Dieu, sous l'esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous porte sur le chemin, qui nous pousse par son vent puissant, le souffle de Dieu. Alors autrefois, notre existence, elle était comme un cercle fermé, on naissait, on vivait, on mourait. Maintenant, c'est autre chose. Maintenant, nous sommes sur un chemin ascendant, un chemin qui monte. Et Jésus dit, même celui qui meurt, quand même serait-il mort, il ne mourra pas. C'est-à-dire que nous avons la vie éternelle, il nous a donné la vie éternelle. Mais elle commence déjà maintenant, la vie éternelle. Et nous sommes participants avec Dieu dans ce combat qui dure depuis des siècles et des millénaires. Et nous sommes participants dans notre temps parce que nous avons cette puissance de vie éternelle en nous. Mais il faut le croire et puis l'exercer. Quand on fait quelque chose et qu'on veut du sport par exemple et qu'on veut exceller dans quelque chose, eh bien on s'exerce. Et une fois qu'on a acquis un titre, comme lui, il est champion de Paris, eh ben c'est bien, mais s'il veut devenir champion de France, il faut encore du boulot, il faut encore qu'il s'exerce. Et puis après, il y a champion du monde, après, il y a univers. Contre les Martiens. Donc on s'exerce et on continue tout le temps, et c'est quelque chose qui dure toute la vie. Nous sommes en train de monter vers un sommet qui est inaccessible à notre chair. C'est pas par notre chair, on ne peut pas monter avec notre chair, avec notre puissance, intellect, avec ces choses-là, on ne peut pas. C'est par l'esprit. Le problème, c'est que sur ce chemin, il nous semble que tout va de travers. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, il me semble que tout va toujours de travers. C'est notre chair qui sent ça. C'est notre chair qui ressent ça. Notre chair, elle ne voit pas les réalités de l'esprit. Elle ne le peut même pas. La Bible dit, Paul dit, c'est impossible, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle regarde, notre chair, le monde, et ce qui s'y passe, au travers d'un petit trou, le petit trou de la serrure de nos frustrations et de nos douleurs, de nos chagrins. Et puis voilà, puis c'est tout. Donc on regarde par un petit trou de nos propres frustrations. Quand on vient à Jésus, nous qui attendions la paix, nous voilà dans le tumulte, nous voilà souvent dans des vallées de chagrin, on se dit, mais alors qu'est-ce qu'il fait Jésus? Moi ça m'est arrivé des fois de dire, mais tu fais quoi? Tu fais quoi mon Dieu? Et c'est notre vie humaine, notre chair, la vie profane qui existe encore, qui nous joue ce tour-là. Notre vie, elle est profane, c'est une agitation de sentiments, d'émotions, d'accidents de la vie, des choses comme ça. Et alors, on est surpris, on est étonné. Alors on se dit, mais Dieu est tout puissant, mais il fait quoi? Ça, c'est la chair qui réfléchit comme ça, parce qu'elle regarde tout au travers du petit bout de la lorgnette, comme disait l'autre. Un petit trou, une petite serrure. Par contre, si on fait confiance à notre Père Céleste, et qu'on garde nos yeux fixés sur lui, vous connaissez le petit cantique, vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Il faut que nous levions nos yeux vers Jésus-Christ. Eh bien, quand on regarde vers le Seigneur, on voit que ce désordre n'est pas une réalité éternelle. C'est pas une réalité éternelle, mais que ce désordre est nécessaire à notre édification. Parce que nous ne pouvons pas nous édifier si nous n'avons pas d'opposition. Ça a été créé comme ça. S'il n'y a pas d'opposition, on ne peut pas progresser. Alors, que rien ne semble avoir de sens, les gens disent toujours, la vie n'a pas de sens. Nous, nous savons que oui, parce que nous avons arrêté de regarder partout de la serrure, on a ouvert la porte, on a regardé. Et on a franchi la porte, on marche sur le chemin. Eh bien, alors que tous nos sens nous disent « mais ça n'a pas de sens », la paix vient dans nos cœurs quand nous regardons au Père Céleste, c'est-à-dire quand nous regardons à son plan global. Le plan global, il est là-dedans. Et c'est écrit de façon à ce que les incrédules ne comprennent pas. Alors voilà. C'est pourquoi il faut le lire avec un esprit de prière. En regardant à Jésus, on contemple sa création, cette création née du souffle, née de son souffle, et on se voit dans un chaos tel que celui qui est décrit dans Genèse chapitre 1, verset 2. Ce chaos, il existe. Nous sommes une partie même de ce chaos. Mais quand on regarde à Jésus, quand on fixe notre regard à Jésus, quand on fixe notre regard sur la vérité, sur son plan global, avec foi, avec espérance, avec amour, eh bien, nous entendons tout d'un coup cette voix qui dit que la lumière soit. Et tout à coup, voilà qu'on voit clair. Il nous semble qu'on va pouvoir expliquer les choses. On peut pas expliquer les choses. Mais c'est quelque chose qui est en nous-mêmes une grande assurance. Difficilement explicable. Mais une grande assurance. Que tout est bien, que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et qui l'a appelé dans son dessein. Alors, que nous étions en train de tourner au rond, comme des enfants qui jouent à Colin Maillard avec un bandeau sur les yeux, je ne sais pas si vous jouez encore à ça, mais nous on jouait à ça, Colin Maillard. Alors on mettait un bandeau sur les yeux, puis on allait en tâtonnant comme ça, c'était rigolo comme jeu. Nous on n'avait pas les jeux électroniques à l'époque, hein. On s'amusait, enfin il me semble qu'on s'amusait plus. Alors qu'on avait perdu le sens de l'orientation, parce que vous savez, quand on joue à Colin Maillard, on met le bandeau sur les yeux, puis la personne qui a les yeux bandés, on la fait tourner, enfin, elle ne sait plus où elle est, elle ne sait plus où est la gauche, elle ne sait plus où est la droite, elle est obligée de toucher les choses pour pouvoir savoir se repérer dans l'espace. Voilà que tout à coup, la lumière apparaît. C'est par la connaissance donnée par le Saint-Esprit quand nous lisons les Écritures. Et c'est comme si le bandeau de ce jeu de Colin Maillard tombe de nos yeux. C'est ce que Paul dit quand il dit que des écailles lui sont tombées des yeux. Des écailles lui sont tombées des yeux. Il a vu clair. Moi, je me rappelle quand je me suis converti à 18 ans, je dis, ça y est, maintenant, je sais. Comme Jean Gabin, je sais. En fait, c'est une profonde impression. Mais on a tout à apprendre encore. Mais on a cette base, ce fondement, cette connaissance. Voilà, à partir du moment où on sait que Dieu est vainqueur, qu'il est vrai, que alors on peut avoir confiance et on peut faire les pas les uns après les autres, on sait, on voit clair. Clair, mais pas loin, mais on voit clair. On voit pas loin. Heureusement, d'ailleurs, Dieu nous interdit de chercher à connaître notre avenir, c'est très très bien comme ça. Il ne veut pas qu'on cherche à connaître notre avenir, il veut qu'on le construise. Il veut qu'on le construise avec foi, avec amour. Et là encore, bah, c'est un cadeau, parce que c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Tout ça, vous apprenez là-dedans. Vous apprenez dans les Écritures. À qui est-ce qu'il donne le vouloir et le faire, Dieu? Eh bien, à ceux qui croient dans sa grâce. Seigneur, ce matin, je me lève et je crois dans ta grâce. Cette journée, c'est une journée de grâce encore. On dit toujours en l'an de grâce 2017. Enfin, on ne dit plus maintenant. Mais c'est comme ça qu'on disait autrefois. Eh bien, cette journée, c'est l'Éternel qui l'a faite, c'est une journée de grâce. Quoi qu'il arrive, de toute façon, ça concourt à mon bien. Même si quelque chose de mal arrive, ça va concourir à mon bien. Peut-être pas sur cette terre, peut-être dans l'avenir, après, dans l'éternité, mais peut-être déjà ici-bas. Il faut toujours avoir ce regard-là. C'est Dieu donne ça, cette connaissance à ceux qui croient dans sa grâce. Je n'ai pas peur, je ne crains rien, je suis dans sa grâce. Il m'aime, il me conduit. Aux autres, eh bien, il les laisse tourner en rond, avec le bandeau de Colin Maillard sur ses yeux, et puis il cherche à tâtons. On trouve ça dans Actes 17:27. Actes 17:27, c'est quand même curieux. Voilà ce qu'il dit. 26 déjà. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Et il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. On cherche en tâtonnant. Mais une fois qu'on a trouvé, voyez la différence. Vous avez ceux qui cherchent, vous avez ceux qui ont trouvé. Ceux qui ont trouvé, bon, ils voient clair, pas loin, mais ils voient clair déjà, c'est une chose. Et puis après, ben, il continue, il progresse. Et c'est pourquoi nous nous réunissons pour étudier les Écritures. C'est pour progresser, c'est pas pour dire « Ah ben j'ai fait mon devoir, j'étais à la messe, ou bien j'étais au culte, ou bien je suis... » Non, c'est parce qu'on a besoin de progresser. Frères et sœurs, notre vie ici-bas, en tant qu'enfant de Dieu, c'est une initiation. C'est une formation en vue de la vie éternelle, dans l'autre dimension. Alors oui, il peut vous sembler que tout est une grande désharmonie. L'autre jour, je me disais, si j'étais Dieu, le compte de celui-là, il serait vite réglé. Ça, quand je parle comme ça, c'est la chair. Hein. Il semble qu'il y a des injustices. Je me rappelle d'un homme un jour qui m'a dit, j'ai vu des choses injustes dans ta vie, je ne peux plus te faire confiance. Ben, cet homme, il a perdu son amour. Nous, il y a des injustices, il semble qu'il y a des injustices, mais on ne perd pas notre amour pour Dieu, on continue à lui faire confiance. Vous voyez la différence? Pourquoi mon gendre souffre-t-il comme il souffre? Lui qui est si gentil, si spirituel, si travailleur, si aimant, pourquoi? Ça paraît injuste. Si j'étais Dieu, moi je sais sur qui j'aurais fait tomber cette maladie, surtout pas sur lui. Je sais très bien sur qui j'aurais... Mais c'est ma chair qui parle comme ça, vous voyez? C'est ma chair. Déjà, quand mon père est décédé, j'avais 15 ans, et que je voyais les hommes qui vivaient dans mon village, vous savez, c'est un village de vignerons, il y avait beaucoup de vivrognes, et ils chantaient, je disais, dire que mon père, un homme formidable, travailleur, intelligent, doué pour tas de choses, c'est lui qui meurt, puis ces espèces de parasites qui servent qu'à bouffer et à boire, mais pourquoi c'est pas eux qui sont morts? Vous voyez, mais c'est ma chair qui parlait comme ça. C'est pas l'esprit de Dieu en tout cas, hein. C'est pas l'esprit de Dieu. Mais on est humain encore, on est humain encore. Si j'étais Dieu, je sais sur qui j'aurais placé cette maladie. En tout cas pas sur Éric Jacques. Mais vous savez, la chair, qu'est-ce que c'est? On est dedans. On est dedans. Et de temps en temps, malheureusement, on est tellement impressionné par les douleurs, par les souffrances, que... On remet le bandeau de Colin Maillard.
Bon, alors on recommence à regarder par le petit trou de la serrure de nos frustrations et de nos douleurs. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut prendre les armes de Dieu et se battre spirituellement, à genoux, dans la prière, luttant efficacement jusqu'au bout. Je suis sur le chemin, oui. J'ai des moments de faiblesse, oui. J'ai des moments de lassitude, oui. Que celui qui n'en a pas me jette la première pierre. On en a tous. Alors ce matin, si je suis là, c'est pour vous encourager, pour vous dire, ah, on est tous au même point, mais il faut se battre, il ne faut pas rester comme ça. Je dois retrouver le sens du vent, je dois retrouver le sens du souffle de l'Éternel, du souffle qui me fait monter et voir et contempler la gloire de Dieu dans sa globalité, non pas dans les détails. Je sais que ce mot en France, il n'est pas beaucoup aimé, le mot détail, mais non, je refuse d'être ballotté par l'air du temps. Je refuse, je ne veux pas. Je veux me tenir sur mes deux pieds spirituellement et puis avoir la tête et le cœur dans le ciel. Parce que c'est par la puissance du prince de l'air, on est déstabilisé. Il agit dans les fils de la rébellion et moi je ne suis pas un fils de la rébellion. Je suis soumis à mon Dieu. Je fléchis les genoux devant mon Dieu et je dis « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Vous voyez, ça c'est la plus belle prière qu'on puisse faire. Est-ce que vous avez vu le film « Bruce Tout-Puissant » ? C'est un film rigolo. C'est un homme qui râle contre Dieu parce qu'il lui arrive que des problèmes. Alors un jour, il est invité par Dieu et il se rend dans un endroit, il ne sait pas que c'est Dieu. Il rencontre Dieu et Dieu lui dit, bah, puisque tu es si malin, moi j'ai besoin de prendre des vacances. Tiens, je te donne 10 jours, c'est toi, t'es le Tout-Puissant, tu arranges comme tu veux les choses. Alors, il fait des choses mais tellement bêtes et ça devient des catastrophes parce que il est charnel, vous voyez, il est charnel, il n'est pas spirituel, il a toute la puissance, mais lui-même, il est un peu bête. Alors à la fin, quand il se retrouve devant Dieu, il dit finalement, mon Dieu, que ta volonté soit faite, c'est encore le mieux. Ça finit comme ça. Et je trouve que c'est très beau. Bruce Tout-Puissant, c'est un vieux film qui date de 10-12 ans. Regardez-le déjà, vous allez rigoler, mais en plus, il y a une idée profonde là-dedans. Bruce Tout-Puissant, avec Jim Carrey. Il faut écouter la voix du Saint-Esprit dans le vent doux et léger. C'est pas facile dans ce monde tumultueux où on entend tout le temps des choses horribles. Hier, je montrais des photos à Inoussa, qui est encore avec nous aujourd'hui, des photos de Yellowstone. Je disais, tu vois, c'est extraordinaire, avec ma femme, on est allé là, c'est merveilleux, c'est un endroit formidable. Ce matin, je regarde l'internet et je vois que les savants, dans le point, disent que ça peut péter du jour au lendemain. Et que si ça pète, c'est l'âge glaciaire de nouveau. On en apprend tous les jours des trucs. Il y a un tumulte. Écoutez la voix du Saint-Esprit, une voix comme dans un souffle léger. C'est pas toujours facile dans ce tumulte. Beaucoup ont des oreilles, mais n'entendent pas ce que l'Esprit dit. Il nous faut un entendement particulier, ce mot entendement dans tous les sens du terme. En ce moment, sur terre, c'est comme les douleurs d'une femme qui est sur le point d'accoucher. C'est ce que la Bible nous dit. Tout semble craquer, mais en vérité, c'est le monde futur qui est en train de se façonner. Et il y a des gros pans de trucs qui tombent, on est étonné, on dit, c'est pas possible. Nous avons été libérés du péché, mais nous sommes encore des humains libres, oui, mais que faire de cette liberté? Des fois, on ne sait pas trop. Alors moi, je vous conseille, ce qu'il faut faire, c'est se servir de l'autre. Servir l'autre et se servir de l'autre. De ceux qui savent, écouter ceux qui connaissent, ceux qui ont de l'expérience, ceux que Dieu a placés dans son Église pour l'édifier, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les apôtres, et aussi les frères et sœurs qui nous ont précédés, les frères et sœurs qui sont autour de nous, il faut écouter. Vous n'êtes pas tout seul. Les conseils peuvent être très précieux, ce n'est pas la force du mental, ce n'est pas la puissance de l'imagination, c'est qui peut vous faire comprendre des choses spirituelles. Parce que l'imagination, tout ça, ça peut vous laisser dans le désordre. Ce qu'il vous faut, c'est vraiment le secours du Saint-Esprit. Et demander à Dieu de pouvoir trouver son conseil là où il faut. Il y a trop d'informations, on ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. C'est un mélange aujourd'hui, c'est terrible. Il faut aller sur vos genoux et demander à Dieu.
Alors Jésus nous invite à casser notre mental pour entrer dans le monde invisible, dans son monde invisible. Parce que ça, là, c'est l'amour qui règne. Autant dans le monde invisible du diable, c'est la haine, autant dans le monde invisible de Dieu, c'est l'amour. On n'entre pas en contact avec le monde invisible de Dieu sans renoncer à la chair. C'est pourquoi la Bible dit de renoncer. C'est pas un message à la mode. Aujourd'hui, les gens veulent, ils lisent des bouquins de, comment on appelle ça, de développement personnel. Ça peut paraître très très bien, mais en fait, ce que la Bible préconise plutôt, c'est de mourir à soi-même. C'est toute une autre affaire. On ne renonce pas à la chair par intérêt. On ne renonce pas à la chair parce qu'on a peur de l'avenir. On renonce à la chair par amour pour Dieu et pour tout ce qui concerne Dieu, sa création merveilleuse. Une fois que nous avons renoncé à la chair par amour pour Dieu, alors, une fois que nous avons renoncé à tout juger par la chair, parce qu'on fait ça continuellement, une fois qu'on a renoncé à tout regarder par le petit trou de la serrure de nos douleurs, de nos souffrances et de nos frustrations, une fois que nous avons passé la porte, alors notre regard va ramener tout notre tracas et tous nos soucis à leur juste niveau, à leur juste dimension. Et c'est petit, je vous assure, c'est petit. Vous vous rappelez de 1976, le 4 février? Non? Ben vous aviez un gros problème ce jour-là. Lequel? Vous ne vous rappelez plus. Vous voyez? Et le gros problème que vous avez aujourd'hui, dans 15 ans, vous ne vous rappelez plus. On est comme ça, et on en fait une montagne. Il faut bouger les montagnes par notre foi. Nous ne sommes plus en train de nous battre tout seuls contre l'adversaire, nous avons le Seigneur avec nous. Nous ne sommes pas tout seuls à nous battre contre les impondérables, ce n'est pas forcément le diable, c'est aussi des fois les impondérables. Vous avez des paysans qui prient pour qu'il pleut. Moi, je prie pour qu'il fasse du soleil. Dieu, il ne sait plus quoi faire. Et puis, Dieu, il fait ce qu'il veut. Donc, il y a des impondérables. Nous comprenons que nous sommes en train de participer à l'œuvre de Dieu quand on a franchi tout ça, quand on a renoncé à notre propre chair. Vous voyez pourquoi je vous dis que l'amour doit être au centre de votre règle, de vos règles de vie. Sinon, vous serez toujours en train de suivre des règlements, des commandements, puis ça sera des obligations, puis ça sera des lois, puis ça sera des condamnations, parce que « Ah, j'ai pas fait ça », et puis vous sentez coupable, la culpabilité vient, puis le diable dit « tu vois, t'es pas né de nouveau, tu vois, comme d'un drôle de chrétien, et puis, hein ». L'amour fraternel, c'est le support de la règle de vie. C'est pourquoi quand un frère vous dit « Je ne te fais pas confiance qu'il a perdu son premier amour. » Parce que l'amour vrai, il demeure éternellement. L'amour vrai demeure éternellement, quoi qu'il arrive. Mais quoi qu'il arrive. C'est comme ça que Dieu voit l'amour. Si je te dis, je te fais plus confiance, c'est que je t'ai jamais aimé. Vous voyez, c'est... Parce que l'amour, le vrai amour, il est éternel. Dieu est éternel, Dieu est amour. C'est ce qui me permet d'aimer Dieu, même au milieu de toutes les ce qui semble injuste. L'autre, il me disait, je te fais plus confiance parce que tu es injuste, tu n'aides pas les pauvres. Ah bon? Je ne veux pas me justifier devant vous, mais je sais ce que je suis, je sais ce que je fais. Et lui, il ne sait rien. On ne va pas vers Dieu sur les marches de son trône pour lui dire « je te fais pas confiance ». Au contraire, on va sur les marches de son trône avec toutes nos frustrations, tous nos problèmes, toutes nos questions. Puis on dit « Seigneur, que ta volonté soit faite, de toute façon je te fais confiance. Mais renouvelle-moi un petit peu, j'ai besoin d'être renouvelé. » Hein ? On continue à faire confiance en toutes circonstances, même s'il semble qu'il ne répond pas à nos besoins. Combien de fois j'ai prié et Dieu n'a pas exaucé ? Ça vous est jamais arrivé ? L'amour sans la confiance, c'est de l'amour ténèbre. C'est un faux amour. Et quand cet amour ténébreux se trouve quelque part et persiste, il faut faire comme la colombe, il faut s'en aller. C'est ce qu'on a fait. Alors on a besoin d'apprendre, d'avoir la connaissance des lois d'harmonie. Ça s'apprend. Si vous vous mettez au piano, puis que vous faites ça...
C'est pas mieux, ça? Il y a des lois d'harmonie.
Ça s'apprend. Pour la vie, pour les règles de vie et tout ça. Mais tout ça, c'est dans la Bible. Encore faut-il la lire. Vous avez perdu vos lunettes depuis combien de temps? La colombe s'en va. Cet apprentissage qui se fait aussi par la maîtrise de soi, par la régulation de nos pulsions, on laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle, on renonce à notre chair, on dit non, ma chair, j'arrive pas par la chair, je demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle. C'est un travail qui ne nous sauve pas, on est déjà sauvés. Mais ça nous élève, ça nous édifie, ça nous prépare à la vie future que Dieu envisage pour nous, il est en train de nous préparer quelque chose. Et puis on va arriver, et puis si vous avez marché fidèlement, ben vous aurez des grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître, tu as peu reçu, il te sera beaucoup donné. Alors on travaille sur soi, on laisse le Saint-Esprit produire son fruit. Le Saint-Esprit produit un fruit, et une des tranches de ce fruit, c'est la maîtrise de soi, qui est donnée à notre âme, à notre être. La maîtrise de soi, c'est ce juste équilibre dont je parle tout le temps. C'est ce juste équilibre constitue la sagesse. C'est la sagesse. Dans la communauté, on est en quête de cet équilibre. Et parce qu'on vit ensemble, alors on a plus de chances que ceux qui vivent tout seuls. Parce que trouver l'équilibre tout seul, c'est plus difficile. C'est plus long. L'apprentissage est plus long. On apprend... l'équilibre, la juste mesure. Nous avons à nous comporter selon les bonnes lois de liberté, selon la divine harmonie, afin de nous élever au rang d'un chef-d'œuvre. C'est ce que Dieu veut. Dans Éphésiens, c'est écrit que nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. Vous contemplez le boulot, arriver à la stature parfaite de Christ. On n'a pas fini de travailler encore, hein? Il faut se donner toutes les chances pour y arriver. Il n'y a pas d'autre moyen de construire notre vie que dans la conformité aux lois de liberté que nous donne le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, notre vie est une construction permanente. Et cette construction continuera même dans la vie éternelle. Sinon, on va s'ennuyer. Parce que l'éternité, c'est long, surtout au début. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous ne devons pas nous éloigner de la notion du sacrifice. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas tellement aimé, parce que ce n'est pas tellement compris. Elle n'est pas comprise, parce que dans certaines religions, on a donné au mot sacrifice une connotation négative. Il ne s'agit pas pour nous de nous mortifier, mais il s'agit pour nous de nous sacraliser. Nous avons à sacraliser notre vie. Savez-vous que le mot sacrifice vient du latin sacra et facere, ce qui signifie en français accomplir le sacré. Se sacrifier, c'est accomplir le sacré. C'est pas se mortifier ou je sais pas quoi. Ou donner trois fois notre dîme, puis plus avoir à bouffer, pour avoir donné à bouffer aux autres. C'est... Sacraliser notre vie rejoint l'idée du dépassement. Voilà, mes frères et sœurs, le beau programme. Se sacraliser, se sacrifier, accepter de renoncer, être persécuté à cause du nom de Jésus, être persécuté à cause des révélations qu'il nous a données, être persécuté... par la mauvaise perception que les charnels ont de ce que nous sommes. Quand j'ai montré à Inoussa comment Joseph Smith a reçu sa révélation et comment le monde a réagi et comment ils ont été persécutés, mais ils ont tenu ferme à part les dissidents. Vous voyez, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Sacrifier notre chair qui ne sait pas regarder correctement.
juge la vie que par le petit trou de la serrure. Je vous le répète encore, se sacrifier, c'est sacraliser notre vie, la rendre sainte. Alors, c'est ce que nous faisons au sein de nos épreuves. C'est plus facile au sein de l'épreuve que dans la facilité. Au milieu de nos jours, tout normaux, tout simple, là aussi. Au milieu de nos activités familiales, religieuses, professionnelles, là aussi. Partout, nous sommes en train de nous sacraliser. On se sacralise, mes frères et sœurs. Alors, en cela, Dieu nous donne le vouloir et le faire. Parce qu'ils sont de nos cœurs et il y trouve quoi ? De bonnes intentions. Pas la capacité d'y arriver, mais de bonnes intentions. Si nous avons cette bonne intention, Dieu nous donne le vouloir et le pouvoir de faire. C'est vrai. Alors réconfortez-vous par ces paroles. Ne soyez pas découragés. Relevez la tête, relevez le cœur. De toute façon, notre délivrance approche. Amen. Amen. Jésus, je te remercie de m'avoir donné ce message. J'espère de tout mon cœur que ceux qui l'écoutent vont pouvoir prendre quelque chose de bon pour eux et que ça va leur faire du bien et qu'ils vont être bénis en gardant ces choses en mémoire, de ne pas les oublier, de ne pas être des auditeurs oublieux, mais de mettre en pratique ce que je leur ai dit et de le réécouter si besoin est. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es la parole de Dieu. Il n'y a qu'une parole, c'est toi. C'est même pas le livre, c'est toi, la parole de Dieu. Merci, Jésus, de nous parler, de nous inspirer à chacun ce dont nous avons besoin, que chacun puisse entendre ce qu'il a besoin, afin qu'il puisse aller de l'avant. Père, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va chanter un cantique et puis après on va écouter notre frère Inoussa qui va vous parler pendant 3 heures. Non. Il s'en va demain et je pense qu'il va vous dire un petit mot, vous dire des mensonges dans le genre « Ah, c'était formidable, j'étais bien reçu, la nourriture était bonne. » Voilà. Je rigole, hein. Inoussa, c'est le frère de Nicolas, pour ceux qui ne savent pas. Alors on chante un cantique et puis après, tu viens spontanément et puis tu nous dis 2-3 mots, ça nous fera plaisir.
J'en ai 40, car la bonne main de Dieu est sur moi.
Amen. Numéro 40. J'ai trouvé le bonheur et je suis plein de joie.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Okay. Alors, merci beaucoup. Je suis très contente d'être parmi vous. Et vraiment, c'est une occasion pour moi de montrer que je suis en tout cas touché au fond de cœur. Donc, mon séjour, en tout cas, c'était formidable. J'ai visité beaucoup de choses en France ici et ça me fait beaucoup plaisir. Donc, je voulais profiter également pour vous dire vous tous, merci beaucoup pour l'accueil que vous m'avez réservé ici. et également dire merci aussi à Michel, à Michou et les frères et les sœurs qui sont ici. Vraiment, Michel, je n'ai rien pour toi. Mais une chose est sûre, que je donnerai ce témoignage jusqu'à mon dernier jour. Parce que c'est une très, 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 très grand miracle pour moi de découvrir la France, en plus l'Europe. Vraiment, je donnerai ce témoignage à mes enfants, premièrement à ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, les collègues, les amis de l'Afrique, du Burkina Faso. Voilà, donc que sincèrement, Dieu m'a fait grâce. Et c'est une opportunité aussi, en tout cas, que je voulais également profiter de dire merci à Dieu. Et tout ce qu'il vient de lire dans la Bible, en tout cas, c'est clair et net. Sans Jésus, je ne pouvais pas venir ici. Sincèrement, de là où je suis, je n'ai pas de diplôme, je ne connais pas quelqu'un, mais je connais plus que quelqu'un. J'ai connu Jésus et à travers Jésus, j'ai connu Michel. Et sincèrement, je suis très content et Dieu vous bénisse. Et je ne manquerai pas à donner à ce témoignage au Burkina et partout là où, en tout cas, j'irai. Et Dieu vous bénisse et merci beaucoup une fois de plus encore.
Amen. Amen. Seigneur, tu bénis notre frère Inoussa et que ce qu'il a vu ici, il puisse le dupliquer là-bas et apporter quelque chose à ses frères et à ses sœurs, aux enfants, et faire quelque chose de constructif avec... Il est resté peu de temps, mais le peu de temps qu'il est resté, il a vu beaucoup. Je sais qu'il est intelligent et qu'il va pouvoir transposer les choses importantes là-bas dans son pays et soulager beaucoup de monde. Merci Seigneur de bénir aussi le reste de son voyage là-bas à Lugano, près de ses frères. Je te demande, mon Dieu, que tout s'arrange bien et qu'il puisse être encore aidé davantage. Merci Jésus.
Amen.
Amen. Et que Dieu bénisse sa femme, ses enfants. Il a 3 enfants, bientôt 4, oh, non?
Oh, non, 4, c'est bon. Donc, excusez-moi, donc, j'ai 3 enfants, 2 garçons et 1 fille. Donc, le premier s'appelle Elkana, le sage. Donc, Elkana, c'est le mari de Anne dans la Bible. Et le deuxième, c'est Tichik. Donc, le troisième, c'est Zoana Afia. Afia, ça se trouve dans le livre de Philemon. Philemon, c'est une seule page. Voilà, donc merci beaucoup et que Dieu les bénisse.
Voilà, et il leur apporte des cadeaux de chez Mickey.
Oui.
Ça va leur faire plaisir.
Oui, ça va leur faire plaisir. En tout cas, merci beaucoup.
Voilà. Okay, d'accord. À bientôt, j'espère. Okay, c'est pas la dernière.
Ah oui,
non, Dieu. Non, il y aura encore d'autres fois, Dieu
okay,
te garde.
Merci.
Au revoir, mon frère.
Okay. Merci.